France Info.
Bonsoir à tous. À chaque fois que nous utilisons Internet, nous créons de la pollution souvent invisible. C'est l'enquête de notre invité ce soir. Bonsoir Guillaume Pitron.
Bonsoir Jean-Lémarie.
Vous êtes journaliste. Vous aviez publié il y a quelques années une première enquête intitulée « La guerre des métaux rares » qui avait eu beaucoup de succès. Vous revenez avec un nouvel ouvrage, « L'enfer numérique » aux éditions « Les liens qui libèrent ». Le sous-titre, Guillaume Pitron, c'est « Voyage ». Au bout d'un like, hein, ce bouton like comme le bouton j'aime sur Facebook, vous êtes allé au bout de ce voyage lorsque nous appuyons sur le bouton j'aime. Qu'avez-vous trouvé? Qu'est-ce qu'il y a au bout de ce voyage?
Si je vous like, si je like votre profil, quel qu'il soit sur Internet, en fait, je ne vais pas, le like ne va pas aller de cette table, du bout de cette table à l'autre bout de la table, il ne va pas faire un mètre ou deux, il va traverser le monde, il va faire des milliers de kilomètres, il va aller de mon téléphone à une borne 4G, ou une borne Wi-Fi, et puis après il va descendre sous terre, il va traverser les océans dans des câbles sous-marins, des câbles transocéaniques optiques, il va être stocké dans des data centers, des fermes de données, plusieurs fois, souvent, et puis in fine il va arriver jusqu'à votre téléphone. Donc en fait c'est une vaste infrastructure extrêmement complexe
pour
envoyer un simple like.
Pour un clic.
Pour un seul clic. Et pour regarder une vidéo de chat, envoyer un email ou swiper sur un site de rencontre en ligne, c'est toujours cette infrastructure et ces mêmes cheminements de la donnée qui sont mobilisés pour pouvoir eh bien, faire fonctionner nos vies numérisées.
Et ça, vous le suivez pas à pas en vous arrêtant longuement sur ces fameux data centers, composantes majeures de ce qu'on appelle aujourd'hui le cloud, le nuage informatique, très joli nom. Mais le data center, c'est très concret et ça consomme énormément. Qu'avez-vous vu, Guillaume Pitron?
En fait, un data center, on stocke nos données, les données sont stockées dans les data centers. Et sans data center, il n'y a pas d'internet. Donc il faut que ces data centers, ils fonctionnent en permanence. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la continuité de service. C'est un joli mot qui veut dire que, eh bien, en fait, le soleil ne se couche jamais sur internet. Il ne peut pas y avoir de panne de data center. Et on veut, de façon à ce qu'il y ait la plus grande fluidité possible dans nos vies numérisées. Donc ça veut dire que déjà, il va y avoir pas seulement un data center pour stocker nos données, mais plusieurs data centers, quelquefois les data centers redondants, qui tourne juste au cas où votre data center, le principal data center, ne fonctionnerait pas. Donc il y a un monde absolument d'une complexité folle pour assurer en fait ce fonctionnement permanent. Et ce sont les data centers qui ont besoin de froid pour être refroidis, parce que les serveurs ça chauffe dans les data centers. Et comme eh bien l'électricité nécessaire au système de climatisation, ça a un impact environnemental, on trouve pour une partie d'entre eux ces data centers, nos comptes Facebook par exemple, dans l'Europe du Nord, au nord de la Scandinavie, en Suède.
Vous avez voyagé au nord de la Suède, notamment. Vous avez exploré cet univers-là.
Et j'ai littéralement fait le voyage au bout d'un like, en allant jusque là-bas.
Et vous scrutez évidemment beaucoup la consommation d'électricité induite par les technologies digitales. Globalement, c'est 10% de l'électricité produite dans le monde aujourd'hui, les technos digitales. Mais elles sont de plus en plus répandues en même temps, Guillaume Pitron. Est-ce que c'est pas normal, puisqu'on les utilise de plus en plus, qu'elles prennent la place aussi d'autres activités, qu'elles consomment de plus en plus? Est-ce que c'est si gênant et si choquant?
C'est absolument normal qu'elles consomment, compte tenu de l'importance en plus du numérique dans nos vies. Dans une période covidienne, on a bien vu que c'était indispensable d'être en ligne en permanence. Donc évidemment que c'est un coût écologique qui est parfaitement normal.
Alors quel est le problème?
Et quelquefois d'ailleurs, c'est mieux d'avoir une réunion en ligne plutôt que de prendre un avion pour aller à cette réunion. Donc il y a évidemment un gain positif. Le sujet, c'est que nos vies deviennent de plus en plus numérisées. À chaque fois que nous faisons quelque chose dans le monde physique, ceci laisse des traces également dans le monde numérique. Et que nos activités, nos actions digitales se multiplient, et il y en a de plus en plus, et la multiplication de ces milliards de milliards de milliards d'actions digitales. Et puis, je vais vous parler de la 5G qui va encore les accélérer. Et puis, on va rentrer dans l'Internet des objets, on y est déjà. Et puis, demain, peut-être l'Internet de tout, où on va tout connecter. Eh bien, cet effet de masse, ces volumes gigantesques de données qui sont générés par cette masse importante d'informations que cette infrastructure permet de faire fonctionner, nous permet d'envoyer, de consommer, eh bien ça, globalement, ça génère un impact qui est en train de devenir absolument colossal, peut-être plus colossal que ce que ça permet de gagner, on ne sait pas, mais en tout cas la question peut se poser.
Donc, consommation très importante d'énergie. Quoi
absolument.
D'autre? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ce que vous avez vu? Dans la matérialité, parce que finalement, c'est ça que vous nous dites. C'est qu'on parle d'immatériel, mais qu'on est dans quelque chose de très physique, de très concret.
Il y a une illusion de l'immatériel. Nos vies sont dématérialisées, les fiches de paye sont dématérialisées, nos existences sont virtualisées, etc.
Et c'est parfois très pratique.
Et en fait, c'est absolument pratique, mais simplement pour faire du virtuel, il faut de la matière. Et j'ai même envie de vous dire, plus c'est virtuel, plus il faut de matière. Et donc, ce qui m'a frappé, c'est de constater, par exemple, qu'une simple puce c'est-à-dire ce circuit intégré qu'on trouve partout aujourd'hui, y compris bien évidemment dans vos téléphones portables, pour fabriquer une puce de 2 grammes, eh bien, c'est tellement complexe que ça nécessite 32 kilos de matière. Donc vous avez besoin de 16 000 fois plus de matière durant le processus industriel que les 2 grammes qui vont terminer dans votre téléphone portable. Donc il y a un lag matériel qui est de plus en plus important à mesure que nous allons vers des objets numériques et petits.
Parce que ces matières premières, il faut aller les chercher, les extraire aussi, en déposséder la terre.
Il faut aller les chercher, les extraire, il faut de l'électricité pour produire tous ces produits-là. Donc il y a également un coût en matière d'émissions de CO2, mais il faut de la matière pour produire l'électricité. Donc on inclut ce coût matériel-là et on en vient à la conclusion que le monde dématérialisé est un monde qui est ultra matériel et qui génère peut-être davantage de matière qu'un monde non numérique, par exemple.
Je termine avec une statistique que vous donnez, je pourrais en donner beaucoup d'autres. En France, un jeune de 18 ans a déjà possédé dans sa vie, écrivez-vous, 5 téléphones portables différents. C'est nous, ça aussi. C'est notre vie de tous les jours. Comment est-ce qu'on casse cette spirale ?
Ça va être très difficile pour moi de se casser la spirale parce qu'on n'en est qu'au début de cette révolution du numérique. Nous avons déjà goûté à cet outil et dans 10 ans...
Si et encore une fois, avec ses bénéfices que vous voyez.
Avec tous les bénéfices, et j'en parle également dans le livre, je suis pas technophobe pour un sou, il faut aller vers le numérique, il y a plein d'effets infiniment désirables au numérique, mais nous ne sommes qu'au début, ça ne fait que commencer. Et nous allons vers une explosion de nos usages numériques, des services numériques qui vont nous être offerts avec toujours plus d'applications, sur des téléphones toujours plus performants. Et donc, en fait, la question de remettre de la sobriété ou de changer les usages une telle technologie, surtout entre les mains de la génération Greta, qui est droguée à ces outils-là, je pense que ça va être une question difficile à traiter.
Et c'est la sobriété à laquelle vous appelez aussi dans cette enquête. Merci Guillaume Pitron.
Merci.
L'enfer numérique voyage au bout d'un like aux éditions Les Liens qui Libèrent.